Kuznetsov, une femme de tête et d'action, des reporters associés à Sigma en passant par Gamma. L'égérie du photojournalisme à la française, Monique Kuznetsov est une star du photojournalisme du XXe siècle. Kuzo, comme on l'appelle, a débuté très jeune à l'agence Les Reporters Associés. Puis, en passant par l'agence Viso, elle rejoint Gamma, devient l'épouse d'Hubert Henroth et cofonde l'agence de presse Sigma. Monique Kuznetsov à Paris et Eliane Affon à New York sont les deux femmes qui ont fait l'immense succès de Sigma et ont fait de Paris la capitale du photojournalisme. Épisode 9. L'âge d'or, la guerre des agences. Les années 80, l'explosion de la couleur, les scoops à l'appel, comme dit Monique, et les grandes exclusivités avec les navigateurs solitaires ou le trésor du Titanic. Dans tous les domaines, on a assisté à énormément d'événements Confitel. La concurrence ? Avec Gamma, une guerre terrible. Moins avec Sipa. Mais juste après la guerre, arrivent les premiers soucis financiers qui annoncent la fin de la magnifique aventure.
Fait la première couverture à Figaro Magazine. Quelque temps après, Powell décide de faire Figaro Madame. Il met sa fille Marie-Claire Powell, qui était formidable comme directrice de rédaction, et on fait là encore la première couverture. C'était Marlène Jobert avec ses deux jumelles, la naissance des deux jumelles, Marlène, et les jumelles ont 41 ans. Donc voilà la date de Figaro Madame. Il y a eu effectivement, beaucoup de magazines qui se sont créés aussi, de cinéma comme Première, qui étaient des beaux magazines. Il y avait vraiment un marché florissant.
Et c'est l'explosion de la couleur.
L'explosion de la couleur. Alors, le grand mot d'ordre était de dire aux photographes, pas de noir et blanc, de la couleur. Moi, j'ai continué à dire aux photographes, vous faites les deux, moitié-moitié, parce que là, c'est bien de penser à faire des couvertures, mais il faut aussi des histoires intérieures et avoir un peu d'artistique, de mélanger la couleur et le noir et blanc. Bon, après, plus tard, avec le numérique, on demande aux photographes de faire que de la couleur. De toute façon, on fait ce qu'on veut après. Ils ont continué à faire un peu des deux, beaucoup de couleurs. C'était peut-être 60-40. Alors là, des scoops, il y en a eu à l'appel.
Oui, des scoops à l'appel et des sommes colossales. Ah, ouais. Parce que là, c'est l'époque de ce que les vendeurs appellent la grimpette.
Ah, ouais. C'était des scoops. Il y a eu des scoops dans tous les domaines. Il y a eu des scoops dans le news, les Malouines. Enfin, il y en a eu, mais c'est gigantesque.
Pologne.
La Pologne. Il y a eu, je me souviens, la mort de Nazis. Il y a eu un scoop qui a été fait. L'Ayatollah Khomeini sous son arbre à Lofle-Château. Ça, c'est Jacques Pavlovski qui a fait la photo. Ils ont planqué pendant des jours avant de repérer où il était. Ça, des scoops, il y en a eu, mais il y en a eu. Moi, j'en ai eu dans le People, quantité absolument incroyable. Alors, il y a eu des scoops et des exclusivités, parce qu'il y a eu aussi des grandes opérations comme le trésor du Titanic, des grandes opérations qui demandaient des budgets, des gros budgets. Mmh. Et il y a eu des grandes exclusivités, parce qu'on a mis en contrat les navigateurs solitaires. On a fait des choses absolument incroyables. Bureau s'est posé en avion privé au Tchad avec photographe, caméraman, Michel Parbeau, etc. C'était à la recherche de Madame Claus, où Hubert Henroth après s'est fait convoquer par Jacques Chirac, qui lui a dit, mon cher Henroth, vous vous rendez pas compte, vous me créez des problèmes, je vais avoir un accident diplomatique, parce qu'on avait vu les petits hommes diplomatiques avec des valises arriver. Donc on fait des photos de ça. Donc on a assisté à des choses absolument incroyables. Énormément de scoops, énorme. C'était l'agence des scoops, hein, Sigma. C'était l'agence des scoops.
Quelles étaient les relations pour vous avec Gamma et Sipa, de votre point de vue ?
Pour Sigma ?
Oui.
Alors, c'était la guerre avec Gamma. C'était la guerre avec Gamma. Comme deux frères jumeaux qui se séparent. Entre la création de Sigma a créé une haine entre les deux, entre Gamma et Sigma. C'était vraiment, même sur les coups. Même les photographes se faisaient même des mauvais coups. Alors après, ça s'est un petit peu arrangé plus tard, parce que quand même, quand il y a sur un terrain miné, sur un terrain de guerre, sur un terrain dangereux, quand il y a deux photographes de deux entités différentes, entre eux, ils sont frères d'armes. Mais ça a été la guerre sur un plan rédactionnel à Paris, ça a été la guerre. Moi, avec SIPA, parce que SIPA était toujours, il était moins notre concurrent direct. Il était notre concurrent, mais c'était le petit dernier à la traîne quand même. C'était le petit dernier à la traîne. Et de temps en temps, il explosait. Mais ça a été pendant très longtemps, je pense peut-être même presque une dizaine d'années, une guerre féroce entre Gamma et Sigma. Vraiment.
Oui.
Féroce.
Et oui,
avec des coups pendables, vraiment. Des deux côtés, hein, d'ailleurs. Hein.
Oui, oui,
alors, effectivement, moi, je me souviens d'un petit exemple, quand c'était le mariage de Lady Di en Angleterre. Chaque agence, évidemment, c'était un enjeu important pour chaque agence. Donc, c'est Henri Bureau, qui était un rédacteur en chef, qui était un très bon organisateur, qui était chargé d'organiser toute notre structure à Londres. On avait les photographes, on avait, je sais pas, 10 photographes. On avait aussi un photographe génial que Lady Di aimait beaucoup, qui était Tim Graham, qui la suivait partout, et qui n'était pas exclusif, parce qu'il n'était pas, il était pas palais, mais il était toujours avec elle, et elle le repérait, elle faisait des choses pour lui. Donc, elle aimait beaucoup. Et moi, j'étais chargée de l'editing au labo. On avait pris un labo à Londres, on développait sur place et je faisais l'editing directement à Londres, des choix de photos avec les hectares, avec les duplis et tout sur place. Et je me souviens qu'après, les photographes rentraient au fur et à mesure à Paris et Henri et moi rentraient en dernier avec le matériel déjà développé. À un moment donné, je ne sais plus, il y a un photographe qui dit il y a un tel sur le vol qui ramène tout. Et Henri dit, ils vont nous griller. Et je crois qu'Henri a passé un coup de fil en faisant presque une alerte à la bombe ou un truc absolument incroyable, qui ne se fait pas, mais qui s'est fait, parce que tous les coups étaient pendables. Et on prend donc le vol d'après, qui était le nôtre. Et dans l'avion, il y avait Raymond qui était à côté de nous, avec les films non développés. Et nous, on était, Henri et moi, dans l'avion côte à côte. On descend à la tablette et on faisait nos jeux de tout près, Italie, Espagne, France, Angleterre, etc., enfin, tous les pays du monde, dans l'avion. Et à l'aéroport, le moteur nous attendait et partait faire les passagers. C'est-à-dire qu'on a effectivement une avance considérable et on battait tout le monde pour dire que quand même tous les coups étaient pendables. Donc vraiment. Mais ça crée des souvenirs.
Donc les années 80, c'est formidable. Comment est-ce qu'il commence à y avoir des problèmes ? Pourquoi Maxwell rentre ?
Hubert Henrot était un visionnaire quand même. Il faut savoir qu'il voyait le métier toujours avec quelques années d'avance et il comprenait ce qui allait se passer dans l'avenir. Et c'est le premier qui a dit, il faut numériser toutes ces archives. On ne peut pas avoir... Tout était très bien classé. Hein. Il y avait des fiches formidables aux archives. Tout était... Les points bleus, les points rouges, tout était très bien fait.
Chardin,
Josette Chardin, formidable, avec toute son équipe de filles, là, son ballet de filles, incroyable. Donc le news, c'était les points rouges. Le people, c'était les points bleus. Il y avait un blocos où on mettait les points. Et puis, on rangeait dans les archives en bas les compléments d'originaux. D'abord, Hubert, il a tout mis sur informatique dès le début, hein, pratiquement très vite, dès le début. Et il a dit, il faut numériser. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent. Il fallait vraiment engager des capitaux très importants. Et même si le métier marchait bien, nous, on n'a jamais touché un sou de bénéfice de Sigma. On n'a jamais pris un centime de bénéfice. S'il y avait de l'argent, tout est réinvesti pour acheter des machines, du matériel, etc. Mais on n'a jamais vu ce que c'était. Jamais. Et il a commencé, Hubert, à prendre des ingénieurs, des ingénieurs en informatique pour numériser toutes les archives. C'est un plan qui coûtait très cher. Et pour continuer ce plan, il nous fallait de l'argent. Le marché a commencé un peu aussi à diminuer. On a commencé à partir de 90, 91, à un moment de la guerre du Golfe, le marché a commencé à s'amenuiser, à diminuer dans le monde. Dans le monde, c'est parce que quand il y a une crise de...
Mais Maxwell est arrivé avant.
Robert Maxwell, vous avez raison, il est arrivé avant. Il est arrivé en 89. Et Bruno Romer est arrivé après, en fait, c'est ça. Non, Bruno Romer est arrivé après. Il y a eu Horos, il y a eu plusieurs partenaires. Il y a eu Horos Media. Et donc, il fallait des capitaux pour numériser. Et donc, il fallait, Hubert voulait vraiment trouver un partenaire pour qu'on ait une solidité économique pour pouvoir numériser toutes ces archives. Et c'est comme ça qu'en fait, on a vendu une partie de nos parts d'abord à Bruno Remer. Et ensuite, Bruno Remer n'avait pas les épaules pour suivre le développement de tout ça, parce que c'était, il y avait une grosse équipe pour numériser les photos. C'était vraiment très coûteux, les machines et tout. Et c'est là où Hubert a fait une rencontre avec le fils de Robert Maxwell, Ian Maxwell. Et c'est comme ça, comme c'était un chef d'entreprise, il avait des magazines en Angleterre et des quotidiens, il avait besoin de photos, il voulait développer la France, et on l'a rencontré, il était extrêmement sympathique, il faut bien dire, extrêmement sympathique, avant qu'on sache tout ce qui se passait derrière. Et il y a eu plusieurs discussions, et puis on a vendu une partie de nos parts, une grosse partie de nos parts, à Robert Maxwell. Ouais. Et en fait, il ne s'est jamais rien passé. Parce que quelque part, très vite après, il y a eu toute son escroquerie sur les retraites en Angleterre a abouti, enfin a été dévoilée, et il s'est retiré. Mais c'est comme ça qu'il est rentré, oui, absolument.
Prochainement, dans la saison 2, Monique Kouznetsov reviendra avec des détails. Abonnez-vous à Drodi, notre newsletter, pour ne rien manquer. Ce podcast a été enregistré par Michel Puech à l'agence HK à Paris en juin 2022 au cours de deux conversations avec Monique Kouznetsov. Le montage et la réalisation sont de Jean-Louis Vinet. Bonne écoute et retrouvez tous nos podcasts sur www.aloy.info.